VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30 temps universel du lundi 17 février 2020. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Burkina Faso, au moins 24 personnes ont été tuées dans l'attaque d'une église. Au Niger, au moins 20 personnes sont mortes dans une bousculade lors d'une opération de distribution de vivres à des réfugiés nigérians dans la ville de Diffa.
C'est un problème d'organisation. Sinon, les autres aussi qui l'ont précédé venaient de temps en temps ravitailler, donc venaient offrir des vivres, des huiles, des cuisines et tout.
Mort de civils dans un village du nord-ouest au Cameroun, l'armée évoque un accident malheureux. Le chanteur rwandais Kizito, arrêté il y a 3 jours à la frontière avec le Burundi, est mort en prison. Plus de 80 000 personnes contaminées par le coronavirus. Ne ratez pas également l'actualité économique et les sports, mais tout de suite le journal. 24 personnes ont été tuées dimanche dans une attaque contre une église protestante du nord du Burkina Faso. 5 soldats sont également morts dans l'explosion d'un engin artisanal. Le point avec Nathalie Barche.
Un groupe armé terroriste a fait irruption dans le village de Panzi, dans la province de Yaga, et a attaqué des personnes de la localité après les avoir séparées des non-résidents, a dit le gouverneur de la région du Sahel, Salfo Kabore. Le bilan provisoire fait état de 24 morts, dont un pasteur, de 18 blessés et de plusieurs personnes enlevées, a précisé le colonel Kabore. Les blessés ont été évacués à Seba et Dori pour des soins appropriés et les personnes décédées ont été enterrées le même jour, a ajouté le gouverneur, disant que des recherches sont en cours pour retrouver les personnes enlevées. Également dans le nord du pays, 5 soldats ont été tués dimanche matin dans l'explosion d'un véhicule du détachement militaire de Ban qui a sauté sur un engin explosif improvisé, indiquent des sources de sécurité.
Au Niger, une vingtaine de personnes sont décédées ce matin à Diffa, dans l'extrême est du pays, dans une bousculade lors d'une opération de distribution de vivres aux réfugiés. Il y a également plus de 12 blessés. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Les victimes sont en majorité des femmes et des jeunes, tous des réfugiés nigérians ayant fui les atrocités de la secte Boko Haram. C'est dans la précipitation de bénéficier de l'aide composée de 5000 naira, la monnaie nigériane, et d'un pagne pour les femmes, 2 sacs de riz et 1 bidon d'huile pour les hommes que la bousculade est intervenue. Le secrétaire général du gouvernorat de la région de Diffa, Yahya Godi, déplore le manque d'organisation lors de l'opération.
Généralement, on organise ça à l'image de ce que font les humanitaires. C'est un problème d'organisation. Sinon, les autres aussi qui l'ont précédé venaient de temps en temps ravitailler, donc venaient offrir des vivres, de l'huile, des cuisines et tout à leurs réfugiés. Malheureusement, cette fois-ci, il y a eu un manque d'organisation et c'est ça qui est arrivé.
Les autorités régionales se sont rendues à l'hôpital de Diffa où les corps des victimes ont été déposés. Elles sont également allées au chevet des blessés, 12 selon des sources locales. Selon l'ONU, au 31 décembre 2019, plus de 120 000 réfugiés nigériens se trouvent dans la région de Diffa. Abdulrazak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
L'armée camerounaise dément les allégations de massacre par les forces de défense des populations dans la localité de Ngarbo, en zone anglophone. Dans un communiqué, le ministère de la Défense parle d'un malheureux accident au cours duquel 12 personnes ont été tuées, dont 5 civils. Le point à Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Jultap.
Ce que l'armée camerounaise qualifie de malheureux accident s'est produit le 14 février dernier, alors que les militaires et gendarmes livraient combat avec des sécessionnistes armés dans le village de Garbou, situé dans la région du Nord-Ouest. Selon capitaine de frégate Atonfak Nguemo, porte-parole du ministère de la Défense, c'est lors des échanges de tirs qu'une explosion de plusieurs contenants de carburant émanant du refuge des sécessionnistes armés a engendré un violent incendie. Quelques habitations voisines ont été affectées et 5 civils, dont une femme et 4 enfants, ont péri dans les flammes. Au cours de cette opération, l'armée dit avoir neutralisé 7 et découvert une habitation du village Garbou qui abritait une base logistique des sécessionnistes. Hier, selon l'AFP, le chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA, pour les régions du sud-ouest et du nord-ouest, a accusé l'armée camerounaise d'avoir tué 22 villageois. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Un célèbre chanteur rwandais dont la musique a été interdite par le pouvoir est mort dans sa cellule. La police a indiqué que Kizito Mihigo s'est suicidé. Kizito, qui a survécu au génocide au Rwanda et dont les chansons provoquaient la colère du gouvernement, a été retrouvé mort dans sa cellule vers 5h locales. Il a été arrêté il y a 3 jours pour avoir tenté de traverser la frontière sud du Rwanda vers le Burundi. Mihigo avait été condamné à une peine de 10 ans de prison en 2015 pour conspiration contre le gouvernement avant d'être remis en liberté. La République démocratique du Congo doit revoir son budget 2020 à la baisse de près de moitié, c'est ce qu'a annoncé ce lundi le ministère des Finances. La loi de finances 2020 prévoyait un budget de 10,59 milliards de dollars pour quelque 80 millions d'habitants, dont les deux tiers vivent avec moins de 2 dollars par jour, sans la moindre protection sociale. Cependant, le plan de trésorerie qui tient compte de l'exécution du budget ne prévoit plus que 5,45 milliards de dollars de dépenses, selon un communiqué du ministère des Finances et des recettes un peu moindres. Un journaliste somalien a été assassiné près de Mogadiscio, devenant au moins le 9e depuis 2017. Abdelweli El Hassan a été tué par balle à Afgoy, à une trentaine de kilomètres de la capitale somalienne, Mogadiscio.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des ressortissants américains évacués du paquebot Diamond Princess, des centaines de croisiéristes recherchés après leur débarquement au Cambodge, un premier cas en Afrique, ce sont les derniers développements de la propagation du coronavirus ou COVID-19 dans le monde. Le dernier bilan fait état de 1770 morts en Chine depuis l'apparition de la pneumonie virale en décembre dernier. Le point avec Jacques Aristide.
L'épidémie maintient le monde en alerte, avec près de 800 cas de contamination confirmés ce lundi dans une trentaine de pays, hors de Chine continentale, dont un premier sur le continent africain, en Égypte précisément. La personne, non égyptienne, est en quarantaine. En Afrique de l'Ouest, où aucun cas n'a encore été détecté, les pays du bloc régional de la CEDEAO viennent de décider à Bamako de renforcer leur coopération. Le ministre malien de la Santé, Michel Amala Sidibé.
Aujourd'hui, on part d'ici vraiment satisfait parce que nous allons développer des plans, bien sûr, de réponse nationale qui existent dans plusieurs cas déjà.
Ailleurs sur la planète, les efforts se poursuivent pour endiguer la propagation. Quelques 300 Américains du paquebot contaminé par le coronavirus au large du Japon ont été évacués aujourd'hui. Un premier avion a atterri en Californie. Parmi eux figurent 14 cas positifs. Les rapatriés devront observer une quarantaine. Mais c'est un autre navire de croisière américain qui amplifie les craintes de propagation à l'international. Des centaines de passagers du Westdam ont été autorisés à débarquer la semaine dernière au Cambodge, alors qu'une Américaine de 83 ans, qui était également à bord, a été testée positive. L'opérateur américain du navire continue de traquer les voyageurs, désormais éparpillés au Cambodge.
Au moins 5 soldats afghans ont été tués dans une attaque des talibans contre leur base dans le nord de l'Afghanistan. Le ministère de la Défense a indiqué que les talibans avaient aussi perdu des combattants dans l'attaque. Cette attaque intervient alors que l'Afghanistan attend le début d'une réduction de la violence annoncée par les Américains et les talibans qui ont conjointement rendu public une trêve partielle d'une semaine qui a débuté le 14 février. L'armée syrienne a découvert une fosse commune contenant 70 corps de civils et de militaires exécutés dans la Ghouta orientale. C'est ce qu'a rapporté ce lundi l'agence officielle Sana. En avril 2018, les autorités syriennes ont repris le contrôle de cet ultime grand bastion rebelle aux portes de la capitale Damas, au terme d'une vaste offensive et des accords d'évacuation. Des dizaines de milliers de civils et de combattants ont été envoyés vers le nord-ouest du pays. Les Émirats arabes unis ont annoncé avoir donné leur feu vert à l'exploitation de la centrale nucléaire de Baraka, la première dans le monde arabe. Mais la date de sa mise en service, déjà longtemps retardée, n'a pas été précisée. Sa mise en route aura lieu dans un futur proche, a déclaré le représentant permanent des Émirats à l'Agence internationale de l'énergie atomique, Ahmad Al-Kabi. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute et Cours, présentée ce soir par Nani Talani.
Le Sénégal a approuvé la vente de Massawa, la mine d'or de la société Barrick, à l'entreprise canadienne Teranga. Celle-ci a obtenu l'approbation du gouvernement sénégalais pour acquérir 90% des parts dans le dit projet pour 430 millions de dollars, alors que le Sénégal détiendra les 10% restants. Massawa devrait avoir une durée de vie de 11 à 13 ans et produire 200 000 onces par an au cours des 10 premières années à partir de 2023. Teranga prévoit de commencer à traiter les gisements de Massawa au deuxième semestre de cette année. La Côte d'Ivoire émet 110 milliards de francs CFA d'obligations à la Bourse ouest-africaine pour financer des projets d'infrastructure. L'émission comprend 80 milliards de francs CFA d'obligations d'une durée de 7 ans à un taux de 5,8% et une obligation de 10 ans de 30 milliards de francs CFA à 5,9% selon la banque NCIA et SOG Bourse, un service bancaire d'investissement. Les obligations qui seront vendues en unités de 10 000 francs CFA seront commercialisées auprès des investisseurs à travers la zone monétaire CFA de l'Afrique de l'Ouest du 12 au 25 février. Pour terminer, le KCB Group, le plus grand prêteur du Kenya, prévoit que la croissance de ses prêts triplera à 15% cette année après l'abrogation d'un plafond sur les taux débiteurs. KCB, qui opère également dans les pays voisins de l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi et du Soudan du Sud, prévoit de fixer un taux de prêt de base début mars.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Ce fut un week-end de pur basket ici aux États-Unis.
Oui, le 69e All-Star Game a été remporté hier à Chicago par l'équipe de LeBron James, 157 à 155. Au programme, le sacre pour Team LeBron, mais aussi un hommage vibrant à Kobe Bryant. Une enveloppe de 300 000 dollars a été offerte par la NBA à l'association caritative choisie par l'équipe gagnante. Finalement, LeBron James et James Harden sont allés chercher les points de la victoire définitivement acquise sur un panier lancé d'Anthony Davis. Auteur de 30 points en 20 minutes de jeu seulement, l'ailier des Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, a reçu le trophée de meilleur joueur du match qui porte désormais le nom de Kobe Bryant.
Chicago a aussi accueilli le déjeuner annuel de la NBA Africa.
Oui, une occasion pour la NBA et la FIBA de dévoiler les 12 clubs et les maillots officiels de la Basketball Africa League, la première ligue professionnelle créée par la Ligue nord-américaine en dehors des États-Unis et du Canada. Et pour lancer ce nouveau joyau de la NBA sur le continent, la crème de la balle au panier a tenu à assister à cet instant historique. Dirigeants, anciennes et actuelles gloires du basketball l'ont tous reconnu. Il est temps pour le continent d'abriter sa propre ligue professionnelle. Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League.
On lance cette ligue après plusieurs années de travail sur le continent pour donner une opportunité aux jeunes garçons et filles qui veulent participer au basket d'avoir accès à ce sport. On sait qu'il y a un énorme potentiel en termes de talent sur le continent, mais jusqu'ici, ce talent est toujours exporté.
Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League. L'AS Douane du Sénégal, l'AS Police du Mali, l'AS Salé du Maroc, le GNBC de Madagascar, le GS Pétrolier d'Algérie, FAP du Cameroun, Ferroviaro du Mozambique, Patriote du Rwanda, Petro de Luanda, de l'Angola, River Hoopers du Nigeria, Union Monastir de Tunisie et Zamalek d'Égypte sont les formations qui prendront part à cette première édition. Les clubs ont été divisés en deux conférences de 6 chacune. Le Caire, Dakar, Lagos, Luanda, Monastir et Salé accueilleront les rencontres. Les premiers matchs auront lieu à Dakar au Sénégal le 13 mars prochain.
En football, le tirage au sort du CHAN 2020 aura lieu ce soir.
Oui, les 16 équipes qualifiées connaîtront leurs adversaires de la phase de poule ce soir à Yaoundé. On sait d'ores et déjà que le Cameroun figurera en position A1, tandis que le Maroc tenant du titre sera en C1. La Zambie et la Libye, tête de série, connaîtront leur groupe au début de la cérémonie. Le tirage au sort sera conduit par Samson Adamou. directeur des compétitions de la CAF. À ses côtés, les anciens internationaux camerounais, Stéphane Tatao et Salomon Olembe. Le CHAN aura lieu du 4 au 25 avril dans les villes de Yaoundé, Douala et Limbé.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Diat, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. 24 civils ont été tués hier au Burkina Faso, précisément à Panti, dans le Yaga, région du Sahel. C'est une église qui a été la cible de cette attaque. Le pasteur y a été tué également, selon les autorités. En plus des 24 civils tués, 18 ont été blessés dans la capitale burkinabé. Les populations s'inquiètent et s'interrogent sur les causes de ces attaques. Ces réactions ont été recueillies par notre correspondant sur place à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Il faut aller à la source de la chose. Il faut savoir ce dont ont besoin ces gens-là. Parce que, bon, on pourrait dire, avec le régime passé, c'est-à-dire le régime de Blaise Compaoré, ce régime arrivait à peut-être maîtriser cette chose-là. Mais depuis l'avènement du président Rochma Christian Kabore, on peut dire non, que ce phénomène a pris de l'ampleur.
C'est d'inviter la population à la collaboration, surtout à la cohésion. S'il y a l'entente entre la population, je pense qu'on peut remédier ce problème. Mais au lieu d'indexer les uns les autres ou d'indexer des intunis.
Qu'est-ce qui pousse ces gens-là à tuer des gens qui n'ont rien à voir dans la politique? Peut-être essayer de discuter avec ces gens-là et puis voilà, voir est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution. L'État a parlé de recrutement des volontaires et autres. C'est vrai, c'est bien. Mais est-ce que ces volontaires-là peuvent éradiquer ce phénomène? Une solution concrète serait nécessaire. C'est-à-dire trouver un moyen pour contrecarrer le terrorisme. Pourquoi pas avec la force conjointe du G5 Sahel ou demander d'autres forces venir aider, comment on appelle la force FDS de notre nation ici.
Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait attaque dans les quatre coins du Burkina Faso, particulièrement au Sahel. Et le gouvernement doit prendre ses dispositions en mettant les moyens aux forces de sécurité et de défense afin de venir à bout de leur mission. Aussi, les moyens ne suffisent pas seuls. Il y a aussi le renseignement. Il faut mettre aussi le renseignement en place. Donc, la population aussi doit beaucoup collaborer afin de permettre aux forces de sécurité de mener à bien leur mission. Parce qu'aujourd'hui, la preuve en est que même si on donne tous les Burkinabés de Kalash pour aller au front, tant que le renseignement n'est pas, ou soit la population ne dénonce pas, ne joue pas sa partition, on ne pourra pas arriver à bout. Donc je me dis que c'est surtout les moyens mis à la disposition des forces de défense et de sécurité et le renseignement qui pourra nous permettre d'arriver à terme, de mettre fin à ces phénomènes qui gangrènent la société.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo était attendu à Addis Abeba, troisième et dernière étape de sa première tournée en Afrique au sud du Sahara. Avant cela, il était en Angola et au Sénégal. Et dans la capitale sénégalaise, il a rencontré le président Macky Sall et présidé à la signature de plusieurs accords de coopération. La lutte contre le terrorisme a également été abordée. Reportage sur place à Dakar, Seydina Abagay.
Pour sa première visite en Afrique subsaharienne, le secrétaire d'État Mike Pompeo a choisi de commencer par le Sénégal. Un choix naturel et cohérent, selon lui.
Il n'y a pas un meilleur endroit pour entamer cette tournée qu'ici au Sénégal. Une démocratie dynamique, un pays culturellement et historiquement riche. Les États-Unis sont fiers de compter le Sénégal parmi ses plus proches partenaires sur le continent. Un autre signe de notre amitié, ce sont ces compagnies américaines qui se précipitent ici au Sénégal. Durant notre réunion, j'ai félicité le président et le ministre des Affaires étrangères pour les nouvelles découvertes de réserves énergétiques sur vos côtes. Des compagnies américaines comme Kosmos Energy et Halliburton sont là pour aider à développer ces ressources pour qu'elles profitent aux populations sénégalaises et non des intérêts étrangers.
Les États-Unis font confiance au Sénégal car le pays remplit tous les critères d'éligibilité pour les différents programmes d'appui et de coopération des États-Unis. C'est l'avis du ministre sénégalais des Affaires étrangères. Amadouba affirme que la coopération bilatérale entre les deux pays est un modèle.
Les relations entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal remontent à très longtemps. Le corps de la paix est là depuis 1961, voire 62 à peu près. Mais le Sénégal a bénéficié d'un second compact. Cela veut dire qu'en décidant de prendre les impôts des Américains pour aider un pays, le Sénégal a répondu à toutes les attentes des autorités américaines et cela a servi à quelque chose. Ces ressources ont été utilisées de manière transparente. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays aussi ouvert. Nous participons de manière vigoureuse au maintien de la paix un peu partout dans le monde.
La question essentielle de la sécurité a été largement abordée et si le Sénégal propose une participation de premier plan des pays africains, il souhaite également que les États-Unis ne se désengagent pas totalement dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, comme l'indique le ministre des Affaires étrangères, Amadouba.
Les États-Unis nous ont fait part effectivement de leur volonté de retirer les forces combattantes, mais cela ne signifie pas pour nous le retrait des forces américaines. Nous avons parlé des États-Unis de la nécessité d'être présents dans la zone. Nous souhaitons que les Américains soient présents dans la zone. Nous souhaitons que les Américains continuent de nous aider dans le domaine de la sécurité. Nous souhaitons que les Américains continuent de nous aider dans le domaine de la formation, dans le domaine du renseignement. Maintenant, nous respectons la position des États-Unis et c'est la raison pour laquelle il y a un adage bien de chez nous qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Aujourd'hui, dans ces conflits, il est important que l'Afrique puisse monter en première ligne.
À Dakar, le secrétaire d'État américain n'est pas venu faire que de la diplomatie. Mike Pompeo était accompagné de plusieurs chefs d'entreprise qui ont signé des accords de coopération bilatérale. Il s'agit entre autres de l'élargissement et de la modernisation du réseau électrique, de la construction d'une autoroute de 165 km qui va relier Dakar et Saint-Louis et d'un centre médical pour les patients brûlés. Il y aura également un dispositif pour permettre au Sénégal de poursuivre ses projets de développement phares dans le domaine de l'éducation, des logements, des infrastructures et des soins sanitaires. À Dakar, Sédina Bagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Gabon, des milliards de Français CFA sont dépensés chaque année pour importer du riz et couvrir les besoins de la population. Pour sortir de cette dépendance alimentaire, le gouvernement soutient des initiatives privées. Notre correspondant Ismaël Obiangze nous fait découvrir dans ce cadre l'expérience du projet Rizicole de Libreville.
Docteur Yonel Mukumbindea a 15 ans d'expérience dans l'étude de la filière rizicole. C'est pour amener le consommateur local à démystifier le produit importé que l'ingénieur des techniques agricoles s'est lancé dans le projet.
Longtemps, le Gabonais est resté cloisonné dans le riz parfumé, le long grain, translucide et tout. Mais nous essayons d'apporter une grande diversité pour montrer aux Gabonais qu'effectivement, il n'y a pas que ce riz-là, mais il y a d'autres riz qui peuvent ne pas être parfumés, mais qui sont aussi bons.
Depuis environ 3 ans, Dr Yonel Mukumbindea conduit une expérience pilote en banlieue de Libreville. L'objectif pour le Gabon, c'est d'atteindre l'autosuffisance en riz. Professeur Jacques-François Mavungu est directeur général de l'Institut des recherches technologiques à Libreville.
C'est un projet qui est important pour notre pays dans la mesure où il est capable d'aider, d'accompagner la mise en œuvre de projets de grande envergure, par exemple le projet Graine qui pourra se déployer sur le riz à travers toute l'étendue du territoire.
Le processus d'expérimentation du riz Made in Gabon se fait par partage de pépinières pour les coopératives désireuses de participer à l'aventure. Une aventure soutenue par des partenaires extérieurs à l'expertise avérée, comme nous le confirme Cédric Pambo Mapika, ingénieur agronome.
Nous avons reçu de Kafassi du Sénégal, nous avons reçu 121 lignées que nous allons tester au niveau du Gabon. Et donc sur les 121 variétés que nous avons reçues, nous allons retenir 30 qui vont passer dans un autre processus de sélection. Nous testons la résistance aux maladies, et nous allons aussi tester le rendement. Parce que c'est important, avant d'introduire un matériel, de savoir sa réponse face au stress, aux maladies, et pour savoir si elle est rentable.
Les professionnels du secteur s'engagent à suivre l'évolution de chaque récolte. Une fois qu'ils auront localisé la semence capable de résister au sol, la production sera véritablement lancée. Docteur Yonel Mukumbindea se prononce sur la politique sémencière récemment adoptée par le gouvernement en Conseil des ministres.
avec l'ordonnance sur la politique semencière. Ça nous permet maintenant d'écrire au ministère de l'Agriculture, en fait, d'intégrer le processus officiellement. Parce que maintenant, il y a l'instrument qui est là, qui nous sert à nous tous, pour qu'ils viennent suivre, parce que c'est eux qui vont certifier la semence qui va sortir d'ici, avant qu'on ne lance la production de la semence de qualité.
Sur le plan environnemental, le Gabon a tout pour réussir ce challenge. Le pays dispose de 22 millions d'hectares de terres arables et il y pleut 9 mois sur 12 chaque année. Libreville, Ismaël Obianzé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Les trompes de Broto, ce sont des instruments de musique traditionnelle que l'on retrouve dans la ville de Bambari en Centrafrique. Imaginez une rencontre entre les pygmées de la tribu Aka et les souffleurs de Broto. C'est le pari réussi du musicologue franco-algérien Kamel Zekri qui s'est rendu en Centrafrique. Sandrine Appy nous amène dans les coulisses de la préparation du concert prévu au mois de mai prochain.
Les trompes de Broto, leurs grandements sourds et épais, associés au chant des pygmées Aka, encore appelés chant polyphonique des pygmées Aka, et qui depuis 2003 font partie de l'héritage culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, c'est le défi que s'est lancé Kamel Zekri, musicien et musicologue franco-algérien, pour la sortie de son nouvel album intitulé Polyphonie, Polyfolie. Une résidence d'une semaine organisée par l'Alliance française de Bangui a permis la création de 12 titres à découvrir dans quelques mois.
Arriver à faire un projet de qualité avec les Angobroto, oui, ça a marché. Avec les Pygmaka, oui, ça a marché aussi. Mais les deux ensemble, forcément, il y avait une grande part d'inconnus qui étaient les questions de rythme, les questions de mélodie, les questions de cycle de danse, les questions de toutes les technicités de la musique, en tout cas, se posent, même s'ils sont dans du même pays, mais ils ont quand même des techniques très différentes. Donc là, on a travaillé sur l'écoute, déjà, de chaque groupe. Chacun est présent, écoute la musique de l'autre, jusqu'au moment où on a commencé à travailler sur des projets, un projet musical commun.
Bien que ce soit la première fois que les deux groupes musicaux se produiront ensemble sur scène, cette collaboration artistique avec Kamel Zekri date de plus d'une vingtaine d'années.
Cela fait longtemps que nous connaissons Kamel, depuis 2001. Nous avons eu à voyager ensemble. Nous sommes allés dans son pays en Algérie et en Normandie. Puis il y a eu des événements tragiques dans notre pays. Mais nous avons pu faire beaucoup de tournées.
Polyphonie, polyfolie, c'est la rencontre de deux grands patrimoines musicaux importants en Centrafrique. D'un côté, la polyphonie vocale des pygmées et de l'autre, la polyphonie instrumentale portée par les souffleurs de Broto. Un projet musical qui participera au rayonnement artistique du pays sur le plan national et international, des concerts étant prévus dans les villes centrafricaines et en France à partir du mois de mai prochain.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Joselle Morissin. À la présentation, Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.